Je suis heureux d'être parmi vous pour vous parler de l'Église et des cultures dans le cadre de cette université d'été à Castanet. Il va falloir préciser de quoi je vais parler, car le mot culture est extrêmement vaste, a une très grande amplitude de sens. Par exemple, vous avez une conférence du frère Jean-Michel Maldamé sur la culture scientifique. On peut appeler effectivement culture un certain état d'esprit, une certaine tournure d'esprit. Et on emploie effectivement culture aussi dans ce sens-là, façonné par, en l'occurrence, des disciplines scientifiques. Je vais prendre culture dans un sens beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu et peut-être aussi beaucoup plus fondamental. C'est, si vous voulez, la culture, c'est cet ensemble de conditionnements que l'homme crée et subit à la fois. En enlevant au verbe subir tout sens péjoratif. L'homme est créateur de culture et il se déploie dans la culture, il est conditionné par la culture. Donc pour chacun de nous, la culture, elle est déjà là quand nous venons à la vie. Nous sommes précédés par la culture, nous sommes éduqués dans une culture. Et donc la culture a un rôle matriciel en quelque sorte pour notre exister humain. Mais en même temps, nous sommes auteurs, à la fois individuellement et puis collectivement surtout. L'homme est créateur de culture. Jean-Paul II, dans un texte sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui est son grand discours à l'UNESCO, qu'il a fait lors de son premier voyage en France en 1980. Donc l'UNESCO, c'est l'organisation mondiale des Nations Unies pour la culture, justement. Et il disait que l'homme est à la fois le père et le fils de sa culture. Nous sommes engendrés dans et par la culture et en même temps, nous la générons. Donc, vous voyez, je vais me situer dans un sens plus vaste que celui qu'on entend aujourd'hui par culture. Par exemple, le ministère de la culture, la culture comme, je ne sais pas quoi, activité culturelle, etc. Et qui est déjà, dans un sens déjà beaucoup, je dirais, restreint, qui n'est pas sans connexion avec ce que je vais dire. Culture, c'est vraiment tout ce qui permet l'épanouissement de nos capacités humaines selon une certaine modalité. Et nous allons voir qu'en fait, souvent, ça va tendre à s'identifier avec ce que l'on appelle nation, ou quand on va encore plus large, avec ce qu'on appelle civilisation. Civilisation, c'est quand on est déjà dans des très grands ensembles, on va parler de civilisation occidentale. À un niveau national, on parlera de culture française, de culture anglaise, espagnole. Vous voyez, on est proche de la langue, on est proche de la nation, et on est ultimement, ça donne une civilisation, ça donne un ensemble de modèles de vie humaine, en quelque sorte. Le premier point que je voudrais développé pour vous, c'est la relation de la culture et de la nature humaine. Je sais bien qu'il n'est plus très à la mode dans la pensée moderne, a fortiori post-moderne, de parler de nature humaine. Effectivement, la pensée contemporaine a pris fortement conscience du fait que nous rencontrons toujours l'homme dans un contexte culturel. Nous ne rencontrons jamais la nature humaine à l'état pur, hors de toute histoire, hors de tout devenir, à tel point qu'aujourd'hui, certains disent, mais finalement, où est-elle? Parce que quand on voit le comportement culturel de l'homme si divers, on ne peut plus avoir une certaine naïveté de penser une sorte de nature humaine immédiatement accessible et directement avec laquelle nous pourrions entrer directement en contact. On a vu ça dans le passage du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, au XIXe siècle, qui est le siècle de l'histoire et de l'exploration ethnographique. Au XVIIIe siècle, on pouvait croire qu'il y avait une nature humaine universellement présente chez tous les hommes et que l'on pouvait dégager des lois naturelles, c'est ainsi qu'on parlait, des lois naturelles, qui étaient celles de cette nature humaine, quelles que soient les circonstances. On était en plein rationalisme, c'est-à-dire croire que voilà qu'il y avait un homme qui obéissait de manière claire et distincte à un certain nombre de critères, de préceptes qui étaient absolument universels et universellement reçus. Quant au XIXe siècle, qui a été quand même le siècle de grandes explorations et de grandes constatations, ethnographique en particulier, on s'est mis à étudier l'homme dans son existé culturel particulier. On s'est rendu compte que les comportements de l'homme étaient extrêmement divers. Et que même des choses que l'on considérait comme des lois naturelles n'étaient pas forcément honorées de la même manière, ou parfois pas du tout. Quand on allait dans certains autres pays, cela, c'est des choses qui avaient déjà été dites auparavant. Bien antérieurement au XIXe siècle qu'on avait forgé ce proverbe connu en France, « Vérité en deçà des Pyrénées », puisque nous sommes au pied des Pyrénées, « Fausseté au-delà ». Je veux dire, il y a une part de relativité. De relativité culturelle. À tel point que nous vivons aujourd'hui, depuis le XIXe siècle, et ça n'a fait que s'accentuer, dans une pente de la pensée qui nous pousse beaucoup plus vers le relativisme culturel, tout est culture, y compris aujourd'hui, voyez la fameuse théorie du genre, de la gender theory américaine, qui veut que tout dans la différence sexuelle, à part ce que Simone de Beauvoir appelait cette petite différence de quelques centimètres, que tout soit culturel. Effectivement, quand on voit les rôles de l'homme et de la femme dans la diversité culturelle, il faut reconnaître que c'est très, 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 très varié. Et donc... on a aujourd'hui une mise en cause de toute universalité, en quelque sorte, humaine, au profit de la diversité et donc de la relativité de la culture. Vous comprenez que ça ne facilite pas beaucoup les choses pour les religions universalistes, dont fait partie bien sûr le christianisme, l'autre grande religion universaliste, il n'y en a pas, je n'en connais pas d'autres, c'est l'islam. On ne peut pas dire que le judaïsme est universaliste. Bien sûr, nous le lisons dans une perspective universaliste, car dans sa promesse, il porte une projection universaliste. Mais si il y a ce qui est propre aux Juifs et ce qui est demandé par Dieu aux Juifs, et puisque Dieu demande aux gentils, dans une perspective juive, ça fait vraiment deux. Et donc, la mission du judaïsme n'est pas du tout de convertir l'humanité au judaïsme. Donc, on ne peut pas dire que c'est une religion telle qu'elle est vécue dans le contexte rabbinique, que le judaïsme est une religion universaliste. Même si elle a quelque chose, elle est porteuse d'une promesse qui, elle, l'est. Mais dans l'état présent, elle ne l'est pas. Donc, les deux religions qui se trouvent confrontées à cela, et nous y reviendrons, c'est un des points qui sera intéressant sur lesquels... il sera intéressant de réfléchir, d'autant plus que je sais que vous avez eu quelque chose sur l'islam, c'est le fait que c'est, justement, on sent bien que ça grince, pas tout à fait de la même manière, heureusement, mais entre cette théorie de la relativité culturelle, d'un côté, et surtout quand ça touche aux questions éthiques, et puis des religieux universalistes qui visent, malgré tout, l'homme dans son universalité, dans sa nature humaine. Le message de l'islam ou le message du christianisme s'adresse à l'homme en tant qu'homme. J'ai été frappé en relisant le discours de Jean-Paul II à l'UNESCO, combien il insiste sur cela. Il s'adressait aux délégués de tous les pays représentés à l'UNESCO et il disait « Quand je vois, vous représentez des cultures très différentes, mais quand je vous vois rassemblés là, je peux dire, de manière très audacieuse, il va dire cela, voici l'homme, ecce homo. » C'est la parole qu'a dit Pilate en introduisant Jésus dans le prétoire. Voici l'homme, c'est-à-dire vous reflétez tous des diversités culturelles, mais qui sont toutes humaines, et donc qui ont toutes une base commune, universellement commune. Comment tenir, vous voyez, à la fois des certitudes touchant l'homme, l'être humain, la nature humaine, appelez-la comme vous voulez, et d'autre part, la diversité culturelle que depuis le XIXe siècle, nous étudions de plus en plus, de mieux en mieux, et avec une curiosité sans cesse croissante. Avec toutes les remises en question que cela suppose. Par exemple, ce qu'on a appelé la remise en question de l'ethnocentrisme européen. C'est très intéressant. Il y a à Berlin un grand musée qui s'appelle, qui est le musée de Dahlen, qui est un musée ethnographique et qui a été fait, je ne sais pas ce qu'il est maintenant, mais ça fait des années que je ne l'ai pas visité et il est très probable que cette disposition ait été complètement changée, mais je l'ai encore vu où on entrait et on commençait par je dirais la Polynésie, la Papouasie, etc., enfin des hommes qui sont un peu à l'âge de pierre, si vous voulez, donc des masques de sorciers, des choses assez effrayantes d'ailleurs. Et puis on passait à l'Inde et on commençait à voir surgir déjà le visage, etc. Et puis on passait à l'Égypte, enfin, grosso modo, hein, et finalement à la Grèce et à Rome. Donc on avait une vision très 18e siècle, hein, très très lumière, c'est-à-dire tout ça est une grande vers l'homme européen, rationnel, étant l'expression la plus parfaite de l'universel humain, qui est, donc, on avait vu avant, très balbutiant, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si une telle chose serait aujourd'hui maintenue. On est tout à fait à contre-courant de cela dans les modes de pensée. Hein. Et quand on pense justement à ce que représente, par exemple, le musée du quai Branly à Paris, qu'on a appelé d'abord le musée des arts premiers, justement pour ne pas l'appeler des arts primitifs, mais premiers. Donc, du coup, le premier devient presque meilleur. Ce qui apparaissait comme un progrès, qui dans une perspective de progrès n'était qu'un balbutiement, apparaît au contraire, serait mis en valeur aujourd'hui comme étant premier, plus fondateur. Donc vous voyez la difficulté que l'on va avoir à est-ce que peut-on encore parler de l'homme ? Vous voyez avec quelle audace Jean-Paul II, dans tout son pontificat, s'adressait à l'homme avec grand H. À travers les cultures, mais il s'adressait à l'homme. Et le christianisme, le Christ s'adresse à l'homme, il s'adresse aussi à tout homme. Il s'adresse à l'homme à travers les nations. Hein. Faites des disciples à partir des nations, dit-il aux apôtres. À partir des nations, nous allons voir, l'homme est toujours quand même en situation de culture. Mais il y a quand même quelque chose dans l'être humain qui n'est pas que le produit de la culture. qui n'est pas que le produit de la culture. Il y a un universel humain qui permet d'ailleurs aux cultures de dialoguer, parce que vous comprenez bien que si on va jusqu'au bout d'un culturalisme, on va vers le communautarisme et vers un communautarisme dans lequel les cultures deviennent étanches les unes aux autres. Elles ne peuvent pas dialoguer puisqu'il n'y a pas un élément humain commun. Et ça va très loin. On ne peut plus reconnaître un frère en humanité chez d'autres hommes. Donc, or, en fait, nous verrons que cela rejoint ce qu'était le paganisme, au fond. Nous pensons que l'idée d'une nature humaine commune est quelque chose qui était présent chez tous les hommes tout de suite, pas du tout. Même, on peut dire qu'on peut dater le moment où, en Occident, parce que dans les autres civilisations, ça a été beaucoup plus tardif. C'est l'Occident qui a été le premier à accéder à cette notion d'une universalité de l'humain. Et il ne l'a fait qu'à l'époque hellénistique, c'est-à-dire à une époque relativement tardive dans la culture grecque. On l'appelle hellénistique, la période commence avec Alexandre le Grand. C'est-à-dire le moment où l'empire d'Alexandre devient un empire multiculturel, englobant bien sûr la Grèce, mais aussi le Moyen-Orient avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, avec la Perse et allant jusqu'à l'Inde. Donc là, effectivement, on commence à... C'est les philosophes stoïciens qui sont en quelque sorte le produit de ce monde, de cet empire multiculturel, qui vont commencer à formuler cette idée qu'il y a une nature humaine commune chez tous. C'était pas si clair que ça chez les grands philosophes, même Platon, Aristote et tout ça. Pour eux, la personne humaine, c'était le citoyen d'une cité. La cité, en quelque sorte, donnait statut de personne humaine. À tel point que pour Aristote, les esclaves, ou pour Platon, les métèques, etc., n'étaient pas des citoyens. Et donc n'étaient pas, d'une certaine manière, des êtres humains accomplis, en tout cas. C'était un peu, hélas, le terme est devenu terrible. Enfin, je pense qu'il était moins terrible dans leur bouche, mais enfin, encore que, un peu des sous-hommes, hein, des hommes amoindris. L'homme plaignait, c'était le citoyen. Et l'homme, au masculin aussi. Car n'étaient citoyens que les hommes. C'était l'humanité était politique, liée à la cité et culturelle. On était... alors évidemment, entre les Grecs, entre les cités grecques qui pourtant se combattaient tout le temps, on parlait la même langue. Donc on reconnaissait, je dirais, une certaine humanité. Déjà avec les autres, la différence grecque et barbare était une frontière extrêmement forte dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Mais elle a duré d'une certaine manière très fortement encore en Europe. Vous savez, la fameuse dispute de Valladolid qui a posé la question au XVIe siècle aux Espagnols, est-ce que les Indiens sont des hommes? La question a été posée et débattue. Valladolid. Est-ce que ce sont des hommes? Tellement la différence culturelle était forte. Et d'une certaine manière, on a mis très longtemps à traiter les hommes des autres races et des autres civilisations, et surtout ceux qui appartenaient à ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage. On a mis longtemps à les traiter tout à fait comme des hommes. Et c'est quand même l'honneur du christianisme d'avoir été un des grands vecteurs de cela. Mais ça a été d'abord, avant même la Bible, avant même le christianisme, c'est déjà des philosophes stoïciens qui, les premiers, ont perçu l'homme, je dirais, par-delà ses conditionnements culturels. Et un des points très importants, c'est qu'ils ont été les premiers, du coup, à émanciper leurs esclaves. Puisqu'ils reconnaissaient dans l'esclave, Épictète, le fondateur du stoïcisme, était lui-même un esclave. Alors, il se rendait bien compte qu'il se sentait homme, hein, pour tout esclave qu'il fût. Et donc, ils en sont venus à l'émancipation des esclaves, qui étaient encore très timides, et le christianisme a rejoint, je dirais, ce courant, et il n'a pu que l'encourager. Mais vous savez que ça n'a pas disparu comme cela, et que longtemps, la différence entre, par exemple, les civilisés et ce que nous appelions, il n'y a pas si longtemps encore, les sauvages, était un fossé énorme, enfin, pratiquement comme n'étant pas presque de la même humanité. Donc, et bien sûr, le racisme, les théories racistes qui se sont développées à partir du XIXe siècle, non sans lien d'ailleurs avec un certain darwinisme, n'ont fait que durcir encore cela, parce que si l'humanité part de leur touche diverse, eh bien, on peut tout de suite poser la question qui a été posée par le comte Gobineau au XIXe siècle de l'inégalité des races. Est-ce que est-ce que l'humain est également présent chez toutes ces races? Encore faudrait-il pour cela pouvoir atteindre cet humain, cette diversité. C'est ça qui est de la difficulté, c'est comment trouver le paradigme, voyez, le paradigme, la mesure, l'étalon de l'humain à travers la diversité culturelle. En même temps, nous en avons besoin parce qu'il y a une perception croissante que l'humain est présent à travers toute l'expression de la diversité culturelle. Nous disons quand même que ce sont des cultures humaines. Nous reconnaissons l'humain. Je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm qui avait été fait à propos, il y a quelques années, à propos de la dispute de Valladolid. Mais une des choses que l'on a voulu savoir, c'est si, parce qu'on avait ramené des Indiens d'Amérique, et on a voulu savoir s'ils étaient capables de rire. Les animaux ne rient pas. Hein, le rire, les philosophes de l'Antiquité l'avaient déjà dit, le rire est le propre de l'homme. Et donc, on a fait venir des bouffons. Vous savez, la cour d'Espagne aimait beaucoup les bouffons, on le voit dans les tableaux de Velázquez. Et donc, on a fait venir des bouffons qui ont fait des bouffonneries. Et puis, ces Indiens regardaient ces bouffonneries, restaient absolument de marbre. Et puis, on allait dire qu'ils n'étaient pas humains, puisqu'ils ne riaient pas. Ils ne riaient pas avec les Européens. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a glissé, tombé, mais involontairement. Et ils sont partis d'un grand éclat de rire. Ah oui, ils ne riaient pas aux mêmes choses. Et on a compris que le rire lui-même est culturellement diversifié. Il suffit d'avoir un peu voyagé pour savoir que l'humour français n'est pas le même qu'anglais. Et même en France, il y a certainement un humour régional. C'est-à-dire, c'est très intéressant parce que l'humour étant une propriété de l'homme, variété d'humour indique variété de culture. Donc on voit jusqu'à quel point on est touché par. Et en même temps, vous voyez, à Valladolid, ces Indiens ont ri. Ils ont pas ri de la même chose que les Européens, mais ils ont ri. Donc il a bien fallu convenir que c'était des êtres humains, que ce n'était pas des animaux. Le conditionnement, je voudrais apporter quelques éclaircissements sur cette notion de conditionnement qui revient beaucoup dans mon discours et je pense qu'il est un terme un peu incontournable quand on parle de la culture. Attention, mon conditionnement, en français, il est utilisé aujourd'hui, en dehors évidemment de la pensée de type philosophique ou sciences humaines, il est souvent utilisé pour dire la manière dont un produit est enveloppé, présenté, etc. On le parle d'un conditionnement, je ne sais pas quoi, vous avez une brique de lait, ben là son conditionnement. Bon. C'est quelque chose de très extérieur en quelque sorte, ce qui fait qu'on pourrait penser que le conditionnement n'est quelque chose de, somme toute, de très très extérieur, de très accidentel, qui affecterait très superficiellement la nature humaine, et que c'est ça que je voudrais dire. Alors, je voudrais pour ça faire un peu maintenant une petite étude sur le conditionnement culturel pour vous montrer à quel niveau de profondeur il atteint. C'est vrai que un conditionnement reste toujours accidentel. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui touche à l'être ultime de l'homme. Qui le définit, le touche jusqu'au plus profond, mais il ne le définit pas. Il n'est pas l'élément déterminant de l'humain. Mais néanmoins, il va lui donner une modalité qui va toucher très profondément l'expression de l'humain. Donc il faut tenir en même temps cela, c'est que l'élément déterminant de l'humain, c'est ce que nous appelons la nature humaine, eh bien c'est quelque chose qui est sous-jacent encore à cela, mais que le conditionnement ou la modalité d'exercice, d'expression, d'opération, de vie, appelez-le comme vous voulez, d'expression existentielle de cette nature humaine va être très profondément modulée par le conditionnement culturel. Pourquoi ? Parce que le conditionnement culturel nous touche d'abord, il nous touche par un conditionnement qu'on appelle substantiel, parce qu'il touche vraiment notre être substantiel. C'est le corps. C'est le corps. Les anges n'ont pas de conditionnement. Un esprit pur n'a pas de conditionnement. Le conditionnement vient toujours par la part corporelle de nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce que c'est elle qui est sensible. Et le conditionnement est toujours une forme d'empathie. C'est ressentir des choses qui nous affectent et qui donc nous marquent. Et si je n'ai pas un corps, bien, je ne le sens pas, je ne suis pas en communion avec le cosmos, je ne suis pas en communion avec les autres. Je n'ai pas cette influence, vous voyez. Conditionnement indique une influence, quelque chose que je vais recevoir. Et par quoi est-ce que je reçois? Sinon par le corps. Hein, c'est le corps, en fait, qui est comme le récepteur et l'échangeur du conditionnement culturel de l'homme. C'est parce que nous avons un corps que nous alors, c'est dans la mesure où ce corps est en même temps sensible, matériel, corporel, animal, mais en même temps animé par un esprit, que là, nous avons tout le paradoxe de l'homme. Et c'est là que nous comprenons pourquoi il est si difficile d'atteindre la nature humaine, parce que comme l'âme est unie au corps, comme l'esprit est unie au corps, eh bien, sans cesse, nous avons toute une épaisseur de corporéité, de tout ce qui va avec la corporéité, le monde du sensible externe, le monde du sensible interne, c'est-à-dire tout le monde de l'imagination, de la mémoire, le monde intérieur, psychologique, et le monde des passions. Le monde des passions, c'est-à-dire le monde des appétits qui affectent si profondément notre volonté, notre désir profond est très affecté par des choses qui viennent du corps, des attirances, au contraire des répulsions, etc. C'est ça qui fait que nous sommes en prise et la culture passe absolument par la corporéité. Et la corporéité, en même temps, nous met dans la temporalité, dans l'historicité. C'est parce que nous avons un corps, que nous avons une histoire, je dirais, et nous nous insérons dans une histoire. Donc, vous voyez, la culture est un conditionnement qui nous atteint par le biais du corps. Or, le corps est le conditionnement le plus profond, puisqu'il est substantiel, c'est-à-dire que à tel point que nous n'arrivons, quand nous pensons à l'âme séparée du corps, c'est bien ça qui se passe au moment de la mort, nous sommes terriblement angoissés. La mort nous angoisse parce que c'est un état, ça nous fait basculer dans un état totalement inconnu. Qu'est-ce que je serais sans mon corps ? Alors, certains diront, je ne serais rien, néant. D'autres, chrétiens, mais pas seulement chrétiens, les philosophes de l'Antiquité, beaucoup d'autres philosophes, etc., diront, non, j'ai une âme immortelle et je subsisterai quand même dans ma personnalité. Mais sans corps, c'est extrêmement angoissant. Parce que je n'arrive pas à m'identifier moi-même, à me sentir sans mon corps. Je suis mon corps. Le corps n'est pas simplement une sorte de véhicule dans lequel je suis. Hein. Mon moi est profondément lié à mon corps. À tel point que les grands théologiens catholiques, comme saint Thomas d'Aquin, considéraient que l'âme séparée, après la mort jusqu'à la résurrection, est une personne amputée. C'est une personne qui ressent comme une sorte d'amputation. Elle est personnelle, mais elle n'a pas l'intégralité de son être personnel. Et c'est pour cela qu'au ciel, tout ce, tous ces défunts attendent et hâtent et prient pour la consommation de tout et la résurrection des morts. Donc la culture va passer beaucoup par le fait que notre âme est très profondément affectée par tout le monde sensible. Entre parenthèses, c'est ça qui a fasciné les sciences humaines. Pourquoi est-ce que les sciences humaines se sont développées? Qu'est-ce que c'est que les sciences humaines? Ce sont, si vous les prenez les unes après les autres, ce sont toutes des études du conditionnement humain. L'ethnologie, la linguistique, nous verrons pour la langue, la psychologie, la sociologie, etc., etc. C'est tout le conditionnement humain. C'est l'humain par le biais du conditionnement. La philosophie classique, c'est-à-dire celle qui va depuis les Grecs, les premiers penseurs grecs, jusqu'à justement la philosophie des Lumières, en gros la fin du 18e, début du 19e siècle, est une philosophie qui s'intéresse à l'élément déterminant de l'esprit, justement ce par quoi l'homme transcende son corps, ce par quoi l'homme peut aller au-delà du domaine de la perception. C'est ça qui les intéresse. Et on comprend. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer ultimement la destinée de l'homme. C'est ça par lequel l'homme va être homme. C'est pas par son conditionnement d'abord. Ultimement, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Que vous êtes posé la question. Aujourd'hui, vous avez des tas de personnes qui se disent, en voyant leur animal préféré de compagnie, chat ou chien ou autre, que finalement il n'y a pas une si grande différence entre l'animal et l'homme. Pourquoi? Mais parce qu'il voit dans l'animal des conditionnements qui sont très semblables à ceux des hommes, en particulier dans le domaine affectif, dans le domaine passionnel. L'animal a beaucoup de traits en commun avec l'homme, un animal supérieur comme est un mammifère, comme un chien ou un chat. Surtout en plus, il vit dans un échange permanent avec l'homme, bien forcément acquiert énormément de choses qui sont du conditionnement. Mais alors, où passe-t-on du conditionnement à l'élément déterminant de l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Eh bien, là je dirais que toute la philosophie, globalement, dit, vous répondra, c'est parce que l'homme est capable de liberté. Et l'homme est capable de liberté parce qu'il est capable d'actes d'intelligence et de volonté et d'amour. Et c'est uniquement ça qui fait l'homme. Vous ne pouvez pas, le conditionnement, vous trouverez le conditionnement sensible, du sensible externe, interne, de l'imagination fabricatrice de l'animal est beaucoup plus riche qu'on ne l'avait pensé. On a l'impression que pour faire ressortir l'humain, on avait beaucoup déprécié le conditionnement animal. Et on connaît beaucoup mieux maintenant le conditionnement animal et il est très riche en fait. Et au fond, bah le nôtre, il est plus original, certes, il a une ouverture justement sur l'esprit et tout cela, mais ça reste quand même un conditionnement animal. Tandis que ce qui fait l'être humain, c'est être capable, justement avec un horizon d'universalité, de se déterminer par rapport au vrai et au bien. Et vous savez, examinons notre vie. Combien d'actes humains, au sens strict, nous posons? Certainement un tout petit pourcentage de notre vie mentale. Je pense très décisif pour notre destinée présente et encore plus éternelle. Hein, très décisif, très important. Mais peu de choses. D'abord, il y a toute la vie de l'enfance et tout ça, où tout cela n'est pas encore... pas accéder à cet acte vraiment libre, et puis après le déclin de la fin de la vie où on perd ce genre de moyens. Donc finalement c'est assez peu de choses, mais c'est très important, c'est comme la pointe émergée d'un iceberg. Mais n'oublions pas que ça repose sur toute cette partie immergée qui est le monde du conditionnement, de la sensibilité, de la perception, des passions, etc. Pour qu'émerge de l'humain, de ce qui détermine l'humain, il y a tout ce conditionnement sous-jacent et qui va affecter très profondément, non pas ce par quoi je détermine le vrai et le bien, mais la manière dont j'accède à cette détermination, elle restera affecté jusqu'au bout par le conditionnement culturel. À tel point que toute une philosophie du XXe siècle, qu'on appelle la phénoménologie, a défini justement au fond ce que nous sommes en train d'appeler culture par un terme philosophique qui est l'être au monde. Comment je suis au monde ? Être au monde, c'est ça la culture. Comment je me sens, j'habite le monde, j'habite les relations avec les autres, je les perçois. Vous voyez, tout ce monde ambiant. Comment le monde est pour moi monde ambiant. Car c'est tout ça, c'est un échange profond avec ce qui m'entoure, aussi bien le cosmos, le monde minéral, végétal et animal, que la société humaine. Et alors, cet être au monde, cette habitation du monde, va se nouer dans le conditionnement le plus profond de tous les conditionnements, celui qui a fasciné le plus, et les sciences humaines et la phénoménologie, qui est le langage. Le langage. Nous ne rendons pas compte à quel point nous sommes conditionnés. Quelqu'un qui naît français et qui donc va parler le français comme langue maternelle, va avoir du fait même qu'il parle français et pas espagnol ou anglais ou autre langue, chinois, du fait même un accès à la perception des choses et des êtres et du monde extrêmement riche mais extrêmement particularisé. Oui. Et c'est la langue qui va lui donner, à tel point que les phénoménologues diront « je suis parlé avant même de parler ». Je suis parlé par la langue, je suis conditionné par la langue. Alors voilà, est-ce que tous ces conditionnements culturels, est-ce qu'ils sont égaux, est-ce qu'ils se valent, et comment les voir dans la perspective du christianisme, de la révélation biblique, etc. Ce sera la dernière partie de ma conférence. Est-ce qu'ils se valent ? Certainement, ils sont tous des expressions de l'humain. Et en ce sens-là, ils sont tous également respectables. Et tous également porteurs de richesses. En même temps, un regard théologique nous dit que l'homme étant touché par le péché, depuis le péché originel, l'expression de sa vitalité humaine, qu'est la culture, en porte la trace. Et que dans toute culture, il y a des lumières, toute une richesse d'accès à la vérité et au bien, un bon conditionnement, je dirais, pour accéder au vrai et au bien, et en même temps, de mauvais conditionnements. Les cultures ont des pierres d'attente magnifiques et aussi des fermetures à l'universalité du vrai et du bien. Chacune a les siennes. Et justement, ce sera un des rôles de la révélation biblique de nous donner des critères au service justement d'un salut qui vise le genre humain, tous les hommes, dans ce qu'ils ont d'humain, donc dans leur appétit de vrai et de bien, dans leur recherche de vrai et dans leur appétit de bien, la révélation va nous donner des critères pour voir dans chaque culture les points d'ombre et les points de lumière. Et pour pouvoir donc libérer, et c'est là, je dirais, l'élément le plus profond d'une théologie de la libération, c'est de juger un certain nombre de comportements traditionnels, culturels, etc., dans lesquels je suis né, qui appartiennent à ma culture, mais qui ne sont pas tous également bons et vrais. C'est vrai pour toutes les cultures, mais de manière différente. Donc toutes les cultures ont intérêt à entrer en interaction et en dialogue. Et normalement, cette interaction et ce dialogue devraient se faire en visant, je ne dis pas en voyant, mais en visant un vrai et un bien de l'homme qui appartiennent à la dignité de l'être humain par-delà toutes les cultures, sous peine d'enfermement. Vous voyez, c'est très grave. Quand Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, la philosophie, les penseurs allemands, en philosophie et en théologie, en philosophie il y a le cas célèbre d'Heidegger, se sont trouvés très paralysés par rapport au nazisme, et parfois même ont été en collusion avec lui, et en tout cas en passivité, parce qu'ils avaient justement une philosophie de l'être au monde comme totalement fermé, enclos dans son époque. Et donc, le national-socialisme, qui était un phénomène très global, qui saisissait toute la société allemande, le rassembler comme la destinée que devait vivre le peuple allemand et qu'on ne pouvait pas sortir de là au nom de valeurs universelles. Et ça va toucher même la théologie, même la foi, puisque toute une partie de l'Église protestante, l'Église évangélique allemande, va dire que l'expérience que fait l'Allemagne de rédemption, de salut par un Führer, doit... comment dire, affecter, transformer sa vision du Christ. Le Christ ne peut pas être juif, il doit être considéré comme arien, et le salut est le salut du peuple germanique. Donc une retraduction du christianisme dans un contexte. Vous voyez, le contexte devient déterminant à ce moment-là. Et un mauvais contexte en plus, mais je veux dire, le contexte devient déterminant et le christianisme n'a plus la puissance de juger une culture. C'est cette culture allemande nazifiée qui prétend dicter au christianisme. L'Église catholique s'en sort beaucoup mieux parce qu'elle est universelle. Et justement, le fait que l'Église catholique n'était pas que référée à elle-même en Allemagne, mais référée à l'Église universelle, a été évidemment salvateur, parce que ce n'est pas possible. Ils pouvaient pas, les évêques étaient en communion avec les autres évêques du monde entier, avec le pape, etc. Les théologiens, pareil, ne pouvaient pas se fermer sur un magistère purement local. Donc, vous voyez, c'est très grave. Les cultures portent en elles parfois des germes très mortifères. Et toute culture qui s'idolâtre et qui se ferme et qui devient xénophobe est évidemment extrêmement dangereuse à ce niveau-là. Parce que sa richesse, elle-même, toutes les valeurs qu'elle porte, elles sont comme corrompues. Vous voyez ce qui s'est passé pour le nazisme avec les extraordinaires qualités du peuple allemand, qualités de culture, de volonté, d'esprit de sacrifice, enfin, tout ce qu'on a vu et qu'ils ont hélas mis au service de cette idéologie jusqu'au bout de la guerre, avec cette ténacité qui les a fait tenir même sous des déluges de bombes, etc., et qui a prolongé terriblement la guerre. Du coup, un peuple moins tenace, moins admirable dans l'adversité, aurait lâché avant. Mais eux, ils ont tenu. Donc, un dévoiement, vous voyez, du meilleur d'une culture au service d'une idéologie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent menacer toutes les cultures qui s'enferment sur elles-mêmes. Donc nous devons tenir une position moyenne entre un culturalisme clos et fermé et une vision de la nature humaine de type rationaliste où on aurait une sorte de vision claire et distincte, de tableau en quelque sorte. Voilà ce qu'est l'homme, ou voilà ce qu'est la femme aussi, parce qu'il y a la question de la différence des sexes. Et puis voilà, il n'y a qu'à ce... Non, il y a... La nature humaine est toujours à chercher. Mais il faut la chercher, car elle existe. Seulement, nous ne l'approcherons que de manière asymptotique, hein, comme par une courbe qui se rapprochera toujours d'elle sans que personne ne puisse dire, voilà, c'est la nature humaine. Nous l'approchons à travers son des approches, à travers les cultures, par une sorte d'induction qui, par extrapolation, on se dit ouais, oui, c'est ça la nature humaine. Mais vous voyez, c'est sans cesse, c'est un objet de recherche permanent. Celui qui l'avait dit de manière très intéressante au début des années 70, c'est un des grands théoriciens français des sciences humaines, qui est Edgar Morin. Edgar Morin avait qui a donc beaucoup réfléchi sur les sciences humaines et sur l'épistémologie des sciences humaines, avait écrit un livre au titre très intéressant pour ce qui nous concerne, « Le paradigme perdu de point la nature humaine ». Le paradigme perdu, ce c'est qu'un paradigme, c'est justement un critère, c'est une mesure. Et donc, nous l'avons perdu. C'est-à-dire, le 18e le croyait trop possédé. Peut-être que ce qui s'est passé après, à travers le 19e et le 20e, c'est la perte du paradigme. Hélas, je ne crois pas du tout qu'on l'ait retrouvé. Et vous voyez que le problème aujourd'hui, par exemple sur toutes les questions d'éthique, c'est qu'on va vers un relativisme de plus en plus poussé. Relativisme entre les cultures, relativisme dans le temps, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain, et donc la perte de tout repère moral, un relativisme généralisé qui peut déboucher sur des choses très, très inquiétantes. Le christianisme là-dedans se doit, et c'est un des grands soucis, vous savez, de Benoît XVI, de donner un témoignage face à ce relativisme généralisé, qu'il soit de l'ordre éthique, culturel, etc., de certitude, de foi, ce qui suppose qu'il y ait une affirmation comme celle que Jean-Paul II a posée dans son encyclique Fides et Ratio en 1998, où il y a des textes très intéressants sur lesquels nous reviendrons peut-être dans le débat après sur les cultures. Pour l'Église, il est fondamental que l'homme, que l'être humain puisse atteindre le fondement humain par-delà l'élément culturel. S'il n'y a que, si l'homme n'est que culture, si tout est construit, y compris par exemple la différence des sexes, etc., tout est construit par la culture. Construit, ça veut dire demain détruit, parce qu'il n'y a rien de plus éphémère. Il y a dans la culture, hélas, quelque chose sur lequel il faut aussi réfléchir, qui est la mode. Et oui, la mode, dans la culture moderne. La culture est faite beaucoup de modes. Et vous voyez à quel point les jeunes générations sont extrêmement sensibles. Je suis effaré de voir à quel point nos jeunes se définissent par des modèles de mode, à tel point qu'il faut qu'ils soient tous habillés de la même manière, qu'ils aient tous les mêmes choses, si c'est la mode, c'est un tel marque de vêtements ou de chaussures, etc., il faut qu'ils aient celle-là, ils la réclament à leurs parents, etc. Et ça va souvent bien au-delà de l'adolescence. Qu'il y ait une étape comme ça dans l'adolescence, c'est un peu inévitable. Mais souvent, ça va bien au-delà. C'est toute une société très adolescentrique. Un sociologue français qui a étudié beaucoup la mode, Lipovetsky, disait que la mode, c'est la tyrannie de l'éphémère. La tyrannie de l'éphémère. Alors, vous comprenez, quand il s'agit simplement de la mode sens magazine féminin, pardon mesdames, ce n'est pas très grave, ou pardon messieurs, parce qu'aujourd'hui les hommes, on est très très sensibles aussi au mode vestimentaire, etc. Mais ça reste superficiel. Mais le problème, c'est qu'il y a des modes pour tout maintenant. Il y a des modes pour tout. Et même la pensée, même les convictions, etc., sont totalement sujettes à la mode. Qu'est-ce que c'est que la mode? C'est une tyrannie de l'opinion. C'est une tyrannie d'opinion. On ne sait pas qui a lancé cette mode, on ne sait pas. Et c'est là, et ça domine, vous voyez. Et alors là, évidemment, comment un chrétien ne pourrait pas aller à l'encontre de cette tyrannie de l'éphémère, de ce qui aujourd'hui est et demain ne sera pas, de ce qui donc ne touche pas l'élément transcendant de l'homme et qui risque de faire de l'homme... Souvenez-vous la dernière page de ce livre célèbre qui s'appelait « Les mots et les choses » de Michel Foucault. Ben, l'homme comme une sorte d'image éphémère que quelqu'un a dessiné au bord du rivage et que les vagues viennent effacer à n'importe quel moment. Donc c'est l'humain qui risque d'être volatilisé, vous voyez, par manque de références transcendantes. Donc probablement qu'aujourd'hui, le rôle de l'Église, je vais ouvrir sur une chose qui est plus une question à débattre après, le rôle de l'Église est moins de secréter une chrétienté, c'est-à-dire une culture chrétienne, qu'elle a trop cru à un moment donné identifier avec le royaume de Dieu. Or, la mentalité chrétienne n'est pas forcément toujours conforme au message de l'Église. On s'en est aperçu récemment avec les actes de repentance de Jean-Paul II. Des actes de repentance où l'Église a demandé pardon pour des choses qui ont été faites en chrétienté, anti-judaïsme, inquisition, esclavage, enfin, un tas de choses, en toute bonne conscience, parce que c'était la mentalité qui dominait, c'était la mode, si j'ose dire, c'était la mentalité dominante, mais ça ne correspondait pas vraiment à l'Évangile. Et donc il y a un moment où l'Église en prend conscience et fait acte de repentance. Donc, trop facilement, on a identifié chrétienté et Église. Chrétienté, c'est la culture, une culture christianisée, mais jamais complètement évangélisée. Plus christianisée sacralement par un certain nombre de repères religieux, etc., de la société, que forcément évangélisée au plan profond du comportement éthique. Est-ce que l'Église va pouvoir secréter une nouvelle chrétienté aujourd'hui? Ça n'en prend pas l'air, hein, vu comment va le monde. Et les pauvres forces de l'Église, en tout cas dans nos pays, qui ont connu une chrétienté, qui en sont sorties. Ou est-ce qu'elle ne doit pas plutôt témoigner des fondamentaux de l'humain dans cette société, dans une société qui perd la boussole un peu, dans une civilisation qui perd la boussole et qui donc se décompose de l'humain dans la perspective d'un passage pascal, d'un passage de ce monde vers le monde nouveau. C'est-à-dire, nous ne savons pas s'il y aura une nouvelle chrétienté ou si nous ne sommes pas entrés dans une période de l'Église beaucoup plus eschatologique, ce qui ne veut pas dire que c'est pour demain ni pour après-demain, etc., la fin du monde, mais que nous sommes entrés dans une perspective où c'est moins de façonner une nouvelle chrétienté comme a été celle du Moyen-Âge, etc., que de préparer et donc d'être des témoins, des ferments dans le monde de l'homme et de son appel à quelque chose qui dépasse l'homme, à ce qui dans l'homme passe l'homme, comme disait Pascal.